ces temps troublés et incertains, on peut toujours compter sur cette capacité immuable qu'ont les adolescents à vous mettre un grand coup de déambulateur derrière la nuque en soupirant sur l'abyssale étendue de votre ringardise. La dernière fois pour moi, c'est comme ma progéniture de 13 ans a levé les yeux au ciel en s'écriant « Mais quoi, tu connais pas Fianso ? Faut sortir un peu, il n'y a pas que Michel Sardou dans la vie ». Je suis évidemment pas la seule dont les enfants considèrent que leurs parents ont été biberonnés au lac du Connemara et que le rap est aussi contemporain que l'iPhone, Snapchat et la trottinette électrique. Ces petits êtres fourbes et malfaisants ont évidemment tort. Le rap hexagonal remonte au début des années 80 quand ses têtes d'affiche, NTM, Assassin ou Fab, chantaient la révolution, le désenchantement et ce qu'on a appelé par la suite l'antisystème. Avec la popularisation de la musique urbaine qui pénètre tous les foyers aujourd'hui, les rappeurs actuels auraient baissé d'un ton et fait disparaître la contestation d'un genre musical né sur les braises de la sédition des quartiers populaires. Maître Gims a désormais sa statue de cire au musée Grévin entre Lady Di et Nolwenn Leroy. Tout un symbole. Le rap a-t-il encore quelque chose à dire? Vos réactions, vos avis, vos punchlines sur Twitter et sur franceinter.fr à la page Le Débat de Midi, dès maintenant et jusqu'à 13h.
Le Débat de Midi. Nadia Dame sur France Inter.
Et pour en débattre, j'accueille en direct et en studio mes trois invités. Bonjour Adrien Pavard.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes le réalisateur de la web-série Saveur Bitume, 10 épisodes consacrés au rap français et à son évolution sur arte.fr.
Arte Créatif.
Voilà, quel beau site. Je précise que vous l'avez coécrite avec Alexandre Lénaud et le rappeur Rossé que les vieilles personnes comme moi ont découvert en 98 sur le label du très regretté DJ Mehdi. À vos côtés, Daphné Veil.
Bonjour Nadia.
Bonjour, vous êtes productrice, manageuse du groupe Arsenic, notamment, pas que. Vous contribuez également à l'émission diffusée sur YouTube Rentre dans le sac, présentée par le rappeur Sofiane Fianso. Donc. Bonjour Jean Morel.
Bonjour. Merci
vous
beaucoup
êtes,
de m'accueillir.
Je vous en prie, vous êtes cofondateur de Grunt, c'est comme ça qu'on dit, un collectif qui organise des freestyles, c'est-à-dire des improvisations entre rappeurs. Et Grunt, c'est aussi le nom de l'émission que vous animez sur Radio Nova.
Exactement.
Première question à tous les trois. Même si le rap, c'est aujourd'hui la musique la plus populaire, la plus écoutée en France, tout le monde n'est pas forcément familier du genre, y compris parmi nos auditeurs. Si vous vouliez faire découvrir le rap français à une personne qui n'y connaît rien, ou qui a peut-être même des a priori, vous lui feriez écouter quel titre? Et un seul titre, Adrien Pavard. Paviard, pardon.
Alors c'est un titre
c'est facile,
qui date
hein,
aujourd'hui. C'est Demain c'est loin d'IAM. Parce que
sur quel album?
L'école du micro d'argent. C'est un morceau assez particulier. Il a une structure où il n'a pas de refrain. C'est un morceau très long. Il n'est pas vraiment fait pour la radio, mais il a pour moi une qualité instrumentale donc de la musique qui passe derrière les paroles qui est déjà très 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 bien faite. C'est une vraie chronique sociale. Ça dit énormément de choses dedans.
Qu'est-ce que ça raconte, en deux mots?
Demain, c'est loin. Au gros, le désespoir qu'il peut avoir dans les quartiers pour beaucoup de jeunes qui ne voient pas en fait, d'avenir, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas d'avenir, que de toute façon, les choses sont déjà décidées pour eux et pas du bon côté des choses. Et il y a une qualité de phrasé, de rime, de rythmique dans les voix qui sont quasi inégalé pour moi.
Vous paraissez super nostalgique. C'est bien parce que c'est le sujet du jour. Hein. Le rap, c'était mieux avant, en gros.
Je ne sais pas si le rap, c'était mieux avant. Moi, le rap qui me plaît, c'était celui d'avant.
Jean Morel, même question.
C'est très difficile comme question, mais c'est vrai que pour, je dirais peut-être, alors même époque du coup, plus ou moins, je dirais Retour aux Pyramides d'un groupe qui s'appelle les X-Men. Pour une raison, c'est que là du coup, il y a toute la dimension sociale en effet avec Demain c'est loin. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Retour aux Pyramides, c'est évidemment, il y a aussi cette dimension sociale très importante, mais il y a surtout ce qui fait aussi l'essence du rap, c'est-à-dire ce jeu littéraire. On sent que c'est deux MC qui s'amusent à trouver des rimes qui rebondissent, qui essaient de trouver des formulations, qui utilisent aussi beaucoup de citations en rebondissant sur des noms qu'ils citent. Et je trouve que c'est une bonne porte d'entrée dans le rap parce qu'on voit aussi que, évidemment, on est là pour dire des choses, mais on est aussi là pour s'amuser. Et c'est que c'est vraiment un jeu littéraire, en fait, de rapper et de développer ce qu'on appelle des flows, c'est-à-dire des manières d'avoir un phrasé qui devient musical sur une instrumentale.
Daphné Veil, un titre pour initier un néophyte au rap français?
Alors, moi, je vais faire un peu d'autopromo, parce que je vais citer Lino, 12e lettre. Donc, c'est un titre qu'il avait fait en 2000, enfin, qui était sorti en 2015.
Membre du groupe Arsenic que
exactement.
Vous produisez. Quel beau Lino, Arsenic.
D'Arsenic. Et donc, le morceau était sorti sur l'album Requiem qui est sorti en 2015. Et c'est pas un morceau nécessairement avec du fond. Il n'y a pas de paroles engagées. Mais c'est une démonstration lyrique assez impressionnante. Parce que, en fait, tout le morceau est construit autour de la lettre L. Donc, c'est un enchaînement d'allitérations en L. Il y avait un site, je crois le site Genius avait comptabilisé combien d'allitérations il y en avait un paquet. Et donc je pense que lyricalement, c'est une démonstration qui peut être intéressante pour des néophytes, pour comprendre un peu quelles sont les possibilités d'utilisation de la langue française dans un morceau de rap français.
Alors moi je vais répondre à ma propre question, mon titre Madeleine, c'est I am, encore une fois, né sous la même étoile.
La vie est belle, le destin s'en écarte, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces grises et BMW la monnaie? Est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres, sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cage, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur de caviar, certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dealé chaque jour? Pourquoi comme moi je plonge, lui passe sa thèse? Pourquoi les cages d'acier, les cages dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile?
La vie est belle, le destin s'en écarte, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Comme Issa, pourquoi je suis pas né la bonne étoile, veillant sur moi, couloir plein de doigts, de cracha, cha cha de francs, compète des tapettes devant, supporter de grandir sans un franc, c'est trop décevant, simplement en culotte courte. Pas faire la belle mécanique plate avec des pots de yaourt, c'est pas grave, je n'en veux à personne. Et si mon heure sonne, je m'en irai comme je suis venu. Adolescent, incandescent, chiant, à tour de bras sur le fruit défendu, innocent. Témoin de type abattu dans la rue, c'est une enfance de la pourriture, ouais. Je ne drague pas, mais virer des tartes aux petites avec les couettes. Pâle de peur devant mon père, ma soeur, porter le voile. Je revois à l'école les gosses qui la croient ce poil. C'est rien, Léa. Si on était moins scrupuleux, un peu de jeu du feu, on serait comme eux. Mais j'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans boire. Les je t'aime à mes parents seuls dans mon lit de soir. Chacun son boulet, sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur, c'est le compte en banque. J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche. Je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche.
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Mon Dieu, pourquoi ne puis-je vivre comme n'importe quel être humain? Pourquoi mon destin est-il de ne pouvoir cesser de battre?
Je peux rien faire.
Vous êtes bien sur France Inter, il est midi 15. Le débat de midi questionne aujourd'hui l'évolution du rap français. L'émission a été préparée par Caroline Pommès. À la technique aujourd'hui, Florent Bujon et Nicolas Slimani.
Quand le rap est apparu, c'était un peu la voix de la banlieue, la voix de l'immigration. Les gens découvraient la banlieue, tu sais, c'est 1990. Je pense qu'il y a eu une identification. Tu sais, quand t'es invisible du paysage audiovisuel, comme l'étaient les Noirs, les Arabes dans les années 90, il n'y en avait pas à la télé.
Des jeunes gars qui me ressemblent parce qu'ils sont renois en France et en fait qui parlent de leur quartier, de leurs potes, de ce qui ne va pas, des rapports qu'ils ont avec l'administration, des rapports qu'ils ont avec l'autorité, de leurs rêves, de leurs échecs, de leurs embrouilles. C'est ma vie en fait, tu vois ce que je veux dire.
Le rap engagé de l'époque, c'est un rap avant les années 2000. C'était des époques quand même où on se disait le monde va changer, tu as engagement pour le racisme, on allait pouvoir éradiquer certains problèmes, ouais, pouvoir s'accepter les uns les autres.
Notre but à nous, c'était de faire réfléchir autant les gens des quartiers, mais surtout aussi en fait des quartiers. C'est pas que les quartiers, c'est les gens qui sont dans le besoin, c'est etc., etc. Mais aussi faire comprendre aussi à nos élus, aux gens qui sont à la tête de tout ce système, qu'il y a des gens qui existent et que c'est eux qui les élisent.
Dans les années 80, il est assez revendicatif. Dans les 90, il devient un peu plus caïra parce que dans les quartiers, ça devient beaucoup plus nihiliste. Le business illicite explose. Puis aujourd'hui, voilà, bah, t'as l'heure des réseaux sociaux, du narcissisme, du matérialisme, tout ça.
Qu'est-ce que tu veux faire si le rap est devenu la forme de pop aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est la queue pour savoir qui va le plus marcher, qui va vendre plus de disques.
Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit léger, il faut que ça soit, que ça se consomme rapidement. C'est ça qui est devenu le rap aujourd'hui. Peut-être aussi parce que tellement la situation sociale, elle est grave, que les gens ont envie d'oublier. Et quand tu arrives avec des textes où tu leur rappelles une réalité qui est déjà dure, les gens ont envie de souffler aussi. Et ça peut se comprendre.
Vous venez d'entendre un condensé du documentaire Saveur Bitume, diffusé sur Arte Créative et réalisé par l'un de mes invités, Adrien Pavillard. On vient d'entendre les voix d'Akhenaton, de Kery James ou encore de Youssoupha, qui font quasiment figure de vétérans aujourd'hui. Quel artiste, quel groupe de rap a été le premier à avoir eu du succès dans le paysage musical français, Adrien Pavillard, si on remonte un peu? Qui est-ce qui a émergé? Allez, on pense à MC Solar, NTM, IAM.
Oui, alors MC Solar, mais pour moi c'est NTM. Assassin et IAM, avec NTM en tête, à mon avis, jusqu'à un certain point où IAM a pris le dessus, mais pour moi, ce sont les trois groupes vraiment phares. Après, MC Solar, c'est sûr qu'on ne peut pas l'éviter, c'est lui qui a rendu hyper populaire aussi ce genre dans les années 90.
Avec un rap qu'on considérait à l'époque comme poétique, parce que très, avec énormément de rimes, on l'appelait le Gainsbourg du rap.
Voilà, parce qu'il était très référencé Gainsbourg aussi, ouais. Parce qu'il faisait en effet le même type de jeu de mots. Oui, même si je pense que derrière il y avait quand même un discours, mais c'était pas un discours aussi engagé peut-être que les autres. Lui, en effet, il était plus sur quelque chose, je pense, poétique est le terme approprié. Oui.
Jean Morel, on parle souvent d'âge d'or du rap. C'était quand et qui l'âge d'or?
Ce qu'on appelle, lorsque c'est une terminologie qu'on a donnée, c'est globalement, on va dire, la décennie des années 90, qu'on considère comme l'âge d'or du rap, mais c'est une appellation qui est venue a posteriori, comme beaucoup de choses un peu historiographiques, c'est-à-dire qu'on a regardé dans le rétro en disant, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'auditeurs de rap, notamment de cette période, qui ont dit c'était la meilleure période, mais parce qu'ils ne peut-être se sont pas retrouvés en phase avec les évolutions de certains rap et une nouvelle modernité, donc ils regardent de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il y avait une ébullition, quelque chose d'absolument incroyable pendant cette décennie où en fait tout était à écrire dans le rap français et que du coup chaque nouvelle sortie, chaque nouveau disque amenait quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de rapper, un nouveau détail dans le paysage du rap, et du coup c'était vraiment une effervescence absolument incroyable. Donc c'est globalement on va dire à la louche les années 90.
Daphné Veil, quelle a été votre première rencontre ou prise de contact avec le rap français?
Avec le rap français, c'était dans les années 90. Donc moi je suis née à la fin des années 70, donc j'étais ado quand j'ai commencé à écouter du rap. Moi j'écoutais beaucoup de, il y avait pas mal de rock assez sympa à l'époque, donc où est-ce que je voulais en venir? Donc oui, j'ai commencé avec NTM, j'ai beaucoup écouté IAM et je me suis beaucoup déplacée dans les concerts. Donc c'était vraiment cette période, donc la période qu'on appelle l'âge d'or du rap français, je l'ai vraiment vécu à fond. Et c'est depuis, je n'ai jamais arrêté d'écouter du rap.
Alors, je vous pose la question parce qu'il y a un phénomène assez intéressant, il y a une forme de nostalgie pour le rap des années 90-2000. On a vu NTM, par exemple, se reformer exceptionnellement pour fêter les 30 ans du groupe. Il y a eu la tournée événement qui rassemblait des anciens, des vieux du rap, un peu sur le modèle Star 80, mais sans les brushings. Comment expliquer que les regards et les oreilles soient encore tournés vers le passé, Adrien Pavillard? Cette espèce de nostalgie que j'évoquais en début d'émission.
Parce que je pense que c'était le rap, en effet, de ceux qui étaient adolescents à cette époque-là. C'était la musique qui émergeait, c'était quelque chose qui accompagnait
une nouvelle culture,
une nouvelle culture et ça accompagnait, je pense aussi, moi en tout cas personnellement, ça accompagnait aussi mon adolescence, donc une période où on cherche à revendiquer des choses, on est fâché, on est en colère, et le rap, il représentait bien ça, donc je pense qu'il y a ça aussi, il y a toutes ces émotions en fait qui sont liées au rap de cette époque. Et puis on dit qu'il y a une étude qui dit que passé un certain âge, je crois c'est 27 ou 28 ans, on reste assez bloqué en fait. La plupart des gens restent assez bloqués
sur la période
sur leurs acquis en fait, ouais, musicaux. Moi, au niveau du rap, c'est assez vrai. Ouais.
Dans l'extrait qu'on a diffusé il y a un instant, on a entendu le rappeur Kery James. Il était plutôt mesuré dans ce qu'on vient d'entendre, parce qu'il a des mots beaucoup plus durs sur le rap actuel, ce qu'on appelle le rap actuel, notamment dans ses propres textes. Dans l'album Je rappe encore, il parle d'un rap à l'agonie, de rappeurs qui maintiennent nos petits frères dans la médiocrité et d'une musique capitaliste. Yves Ski, quand il dit ça, Jean Morel.
Bah, c'est une position qui est celle de Kery James, qui a, lui, pour le coup, incarne vraiment l'idée que le rap, c'est ce qu'on appelle le Black CNN, c'est-à-dire vraiment cette idée qu'il y avait, c'est un terme qui était développé par Public Enemy, des rappeurs américains, mais l'idée que, ce qu'on a entendu d'ailleurs dans les extraits, dire que ce qui a existé avec le rap dans les années 80-90, c'était l'idée de revendiquer une parole qu'on n'entendait nulle part, c'est-à-dire la volonté d'exister, et comme le micro, qui était les micros des MC, les MC, c'est les maîtres de cérémonie, les rappeurs, étaient les seuls qui étaient ouverts pour raconter cette réalité. Donc, avec le temps, je pense qu'il y a eu du coup de la place pour d'autres types de rap, d'autres manières de rapper, de s'exprimer. Et peut-être que ce que déplore Kery James là-dessus, c'est l'idée que il y a des gens qui sont détournés de ce qui était cette fonction première pour lui, qui était le rap, un rap de dénonciation. Après, il faut nuancer ce propos parce que le rap français, certes, est un rap qui, on va dire culturellement, historiquement, a toujours été assez engagé dans les années 90, mais le rap tel qu'il existe au début, c'est-à-dire si on remonte à New York, où est-ce qu'il est né, le Bronx, les block parties, le rap c'était aussi juste de l'amusement, l'idée de...
Festif.
Voilà, c'était mettre des enceintes dans une cour, mettre de la musique, et on arrivait avec ses plus beaux vêtements, on dansait, on breakait, c'était l'idée aussi de partager quelque chose qui était de l'ordre de la fête, et il y a ces deux... En fait, vecteurs un peu du rap qui sont importants à notifier. À la fois, on peut dire des choses, mais on peut aussi beaucoup s'amuser en écoutant du rap.
Daphné Veil.
Justement, dans les années 90 aussi, il n'y avait pas que du rap engagé. Enfin, même, on citait NTM et IAM. NTM a quand même fait La Fièvre, Ma Benz.
Menelik, Bye Bye, pas exactement un brûlot politique. Ouais.
Voilà, c'est pas hyper engagé. IAM avait fait le MIA. Enfin, c'est voilà. Donc le rap comme moyen divertissant était déjà, enfin c'était déjà le cas à l'époque. C'est pas nouveau.
Mais cette critique formulée par Kery James, mais pas que, de perversion par le capitalisme du rap français, elle peut être assez audible, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui auprès de certains rappeurs. Il y a une culture du produit dérivé. Le groupe PNL, par exemple, qui a sorti sa ligne de vêtements QLF pour que la famille. Big Flo et Oli qui s'est associé à une marque de boissons énergisantes. Ça veut dire quelque part que le rap a été digéré par l'industrie du divertissement, Adrien Pavia, phagocyté, avalé.
Oui, et en même temps, c'était quelque chose qui était, je pense, voulu aussi de la part des rappeurs. En fait, c'est pas nouveau ce marketing.
Déjà,
ouais, ce marketing. Alors déjà, pour revenir sur Kery James, déjà dans Original MCs, il avait déjà ce discours où déjà il traitait les rappeurs qui faisaient ça pour gagner de l'argent, qui faisaient du rap pour gagner de l'argent. Donc c'est pas nouveau. Et le marketing, pour moi, il a toujours plus ou moins été là. Les marques de vêtements, ça arrivait quand même, alors pas tout au début, mais ça arrivait assez vite. Je trouve c'est une influence américaine.
Oui, mais on a entendu que ces marques-là, elles sponsorisaient peu le rap à une époque parce qu'elles estimaient que le consommateur de hip-hop, de rap, avait pas un énorme pouvoir d'achat. Ça a changé, ça?
Je pense que les gens aujourd'hui dépensent plus encore, oui, consomment encore plus.
Daphné Veil, je vous voyais accéder.
Je pense surtout que les marques aujourd'hui voient l'ampleur qu'a pris le rap. Et qui devient incontournable, qui touche toutes les générations. Enfin, c'est que ça, contrairement à l'époque.
Oui, on peut écouter du rap en famille aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas dans les années 90.
Exactement. Le rap est présent à la télé, dans des reportages sur le foot. Il y a beaucoup de synchronisation avec des morceaux de rap. Enfin voilà, donc les marques, enfin le rap devient incontournable pour les marques. Il y a pas mal de marques, il y a Adidas qui s'associe avec Esprit Noir.
Ne citons pas trop de marques, hein, évitons.
Excusez-moi. donc voilà, donc il y a des marques de sport, mais pas que. Et donc voilà, donc ça devient des partenaires, disons assez incontournables, les rappeurs pour ces marques-là. Disons qu'elles n'ont pas le choix pour pouvoir toucher une population assez large que de s'associer à des personnes populaires.
Jean Morel, c'est un truc de, pardon. pardon pour l'expression, mais c'est un truc de vieux con de se dire que les jeunes rappeurs d'aujourd'hui sont pervertis par le capitalisme et de supposer que ceux d'avant avaient une éthique irréprochable.
Alors moi, en fait, je considère que le rap, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il est le reflet de son époque. Comme j'essaie d'en parler avec justement les années 90, cette volonté d'exprimer quelque chose qu'on entendait quand on se retrouvait nulle part dans les médias et du coup, on voulait raconter sa propre histoire. Aujourd'hui, je pense que quand on parle justement de ce rap nihiliste, de ce rap peut-être centré sur soi-même, c'est aussi le reflet de l'époque pour moi dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'on est dans une décennie, on arrive à la fin d'une décennie qui a été la décennie des réseaux sociaux, une décennie selfie, j'ai envie de dire, où tout le monde ne se prenait que soi-même en photo. Et du coup, il y a cette logique où le rap reflète un peu cette mentalité qui est la mentalité d'une jeunesse, d'une société de manière générale, qui se regarde et qui du coup se met en avant. Donc il y a cette culture du bling-bling, cette culture de la mise en avant, etc. Mais qui a été quand même eu d'ailleurs un impact politique. C'est-à-dire quand même que le terme bling-bling est devenu un terme politique avec Sarkozy notamment. Donc on voit encore, quand on dit le rap n'a pas grand-chose à dire, on voit encore qu'il y a une influence du rap au point que ça finit par énerver dans la conversation. Maintenant, il y a des termes de rap qui sont employés dans le cadre du débat politique. Ouais. Donc il y a encore des choses à dire quand même.
Bien avant Instagram et le bling-bling, il y a eu un moment précis où le rap s'est devenu un objet, un outil politique et il est intervenu dans un débat de société en particulier. C'était en 97 avec le mythique titre 11 minutes 30 contre les lois racistes qui réagissait aux lois Pasqua et Debré qui durcissaient les conditions de séjour des étrangers en France.
Je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique. Mais quand je vois tout le trafic, on ne peut pas rester pacifique. Les lois qu'ils veulent mettre en application corroborent mon accusation. Trop de mes semblables qui plombent pris dans le tourbillon de l'immigration. Tout pays au monde expulse ses immigrés clandestins. C'est vrai, mais la France a une autre responsabilité entre les mains. Les faits sont historiques, le peuple français a fait couler son sang pour écrire noir sur blanc les bases d'une démocratie en Occident. Au grand jour, je reste lucide dans mon faubourg et garde un œil sur les vautours.
Une excuse, les gens savent très bien pour qui ils votent. 52% de fils de pute à Vitrolles. Une fois pour toutes, c'est clair, idem pour ces ministres miennes fielles. Votant des lois pour séduire ce type d'électorat. Rappelle-toi qui s'est battu pour la France. Couteau entre les dents, rampant et rien dans la panse. Tu collaborais à l'époque.
Alors c'était un extrait assez bref d'un titre d'11 minutes 30, 11 minutes 30 contre les lois racistes qui rassemblait des grands noms du rap français. Il n'y a pas eu de mouvement de la même ampleur au sein de la galaxie de rap français. Est-ce qu'il y a un retrait du champ politique, Adrien Pavillard, ou peut-être que j'ai raté quelque chose et qu'il y a eu des hymnes politiques de la part de rappeurs depuis 1997 ? Corrigez-moi.
Non, moi, je vais rebondir sur ce que disait Jean, c'est que c'est le reflet pour moi en effet de la société. C'est la société qui s'est dépolitisée en général. Aujourd'hui, je pense que pour des... C'est d'ailleurs Lino qui le dit dans le documentaire. Je pense
Lino,
que si...
rappeur d'Arsenic.
Rappeur d'Arsenic. Je pense qu'en effet, aujourd'hui, un rappeur qui se dit vraiment engagé politiquement, qui suit son discours, il est ringard pour plein de gens. Alors, il est devenu ringard parce que dans la société, c'est le divertissement, c'est faut que les choses soient quand même légères, faut tout ça, et que je pense que c'est ça qui a fait qu'il n'y a plus d'hymnes aujourd'hui, et pas la faute des rappeurs ou...
Ce désengagement que vous racontez, c'est intéressant parce qu'il est plutôt assumé par les rappeurs actuels, en tout cas par certains. Le rappeur Alonso a déclaré dans une interview, en caricaturant volontairement, « Aujourd'hui, dans le rap, on a le droit de rire, on a le droit de faire du second degré. T'es plus obligé de venir avec ton béret, ton treillis et faire le Che Guevara. » Daphné Veil, une réaction à cette déclaration.
Mais moi, j'ai l'impression que l'engagement a changé peut-être de forme aujourd'hui. Parce qu'il y a moins de morceaux à thème engagés, de rassemblements comme ça autour de thématiques, de problématiques. Mais il y a toujours, par exemple, je pense à l'affaire d'Adama Traoré, à la mort d'Adama Traoré. Il y a énormément de rappeurs qui sont mobilisés autour de sa sœur pour la soutenir. Il y a eu pas mal de marches, il y a eu des rassemblements, il y a eu un concert à la Cigale, Justice pour Adama, qui réunissait plusieurs générations. Il y avait Dossé, il y avait Youssoupha, Sofiane, Arsenic, etc. Donc pour moi, il y a quand même des formes d'engagement qui sont exprimées sur le terrain, peut-être moins dans les morceaux, sachant qu'on a encore aujourd'hui des punchlines, même je pense à Booba dans PGP, c'est un morceau sans thème, avec de l'ego trip.
Et... Ouh là là, ça fait... on va recevoir beaucoup de mails, alors vous allez traduire ego trip et punchline pour commencer.
Punchline, c'est l'idée de trouver une formulation sur une mesure extrêmement efficace, dire avec très peu de mots quelque chose qui est une image très
choc.
Forte.
Et ego trip, c'est narcissisme.
Exactement. Voilà, exactement. Et donc, il y a une phrase sur Adama Traoré où il disait, je pense qu'il disait que le policier serait acquitté. Je ne sais plus comment il le dit, mais voilà.
Ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même des prises de parole, oui. Des prises de position politique. Mais pourquoi ce sentiment, cette sensation, peut-être à tort, qu'il y a un désengagement malgré tout, Jean Morel, du champ politique et du champ sociétal de la part de ce genre musical?
Il y a quand même quelques thèmes qui reviennent, par exemple ça, que les violences policières, on le retrouve au détour de quelques punchlines, justement, je vais réemployer ce terme, mais il est important pour le rap, donc je m'en excuse. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, c'est peut-être pas forcément des morceaux à charge, à thème, mais on le retrouve au sein de couplets, une ou deux lignes qui vont faire écho à quelque chose de politique et qui se mélangent par rapport au reste. Mais les violences policières, il y a pas mal de morceaux qui sont sortis récemment de jeunes groupes qui sont vraiment concentrés au sujet. Ensuite, je voudrais juste rebondir peut-être sur la question d'un engagement politique. Quand je parlais tout à l'heure, ou qu'on parlait tous ensemble de la culture du bling-bling, de l'idée de revendiquer quelque chose de narcissique, d'un accomplissement personnel, c'est déjà pour moi un acte politique aussi, puisque quand on revient de l'idée qu'on a empêché, ou qu'on parle justement de ces cités, de ces zones où tout est difficile, où l'éducation est compliquée, où réussir à gagner de l'argent est compliqué, la revendication de dire je m'en suis sorti, je gagne de l'argent, avec en effet une logique capitaliste qu'on peut décrier, mais qui existe, est quand même aussi une forme de combat d'une certaine manière. Dire moi aussi, en gros, se comparer un PDG par exemple dans un texte de rap en disant j'arrive à faire mes propres affaires, j'ai ma propre marque de fringues.
Ce que fait Rof par exemple.
Voilà, exactement. Cette logique-là, pour moi, elle revendique aussi quelque chose de politique. Dire moi aussi, je viens de nulle part, je peux le faire avec une logique, encore une fois, je vais dire un anglicisme à l'américaine. Un self-made man, quelqu'un qui se fait tout seul.
Mais Adrien Pavillard, pour autant, certains considèrent que ce que vient de décrire Jean Morel, c'est du rap de droite. Il y a un rap de droite aujourd'hui ?
Alors, le journaliste Scheur, qui est un genre de sniper du journalisme...
Qu'on a entendu dans l'extrait qu'on vient de diffuser de votre documentaire.
Pour lui, par exemple, il dit clairement, le rap est une musique de droite. C'est pas totalement faux. Moi, quand j'ai interviewé IAM, Akhenaton... donc un des membres d'IAM me dit, mais moi mon rêve, il était américain, il était pas soviétique. Lui, il voulait aller aux États-Unis, il voulait faire de l'argent. Et cette idée du rap comme étant tout d'abord politique, et comme si tous les rappeurs devaient porter un message et étaient porteurs même d'une mission, comme dirait Kerry James.
Il y a un malentendu. C'est pas la fonction première du rap, d'être engagé.
Non, c'est une musique. On ne demande pas d'ailleurs ça aux autres. Hein. Alors c'est vrai que le rap, par sa forme, qui est très narrative, qui raconte beaucoup d'histoires personnelles, elle a déjà, par l'origine sociale des gens, justement des rappeurs, qui viennent quand même de quartiers les plutôt pauvres, c'est plutôt des gens qui viennent par des populations les plus faibles, déjà en parlant, en effet, c'est déjà un acte politique, mais je suis pas sûr que le rap doit être engagé. Moi j'aime ça, je trouve, moi ça m'a formé parce que ça arrivait à un moment de ma vie, mais je suis pas sûr que... Qui doit être comme ça. D'ailleurs, le rap américain, j'écoute du rap américain qui, pour le coup, me concerne pas. Je l'écoute parce que c'est une musique que j'apprécie.
Pour situer quand même le débat dans un contexte actuel et politique, pendant le mouvement des Gilets jaunes, il a été reproché par certains aux rappeurs d'être restés silencieux sur cette révolte, alors qu'ils étaient censés avoir une forme de légitimité. Cette accusation, elle est justifiée, Jean Morel ?
Encore une fois, moi, ce que je trouve intéressant avec le rap, c'est que de manière générale, il va réagir à tout ce qui est un sujet d'actualité de société. Mais il y a aussi toute cette partie qu'on oublie, c'est que le rap, encore une fois, c'est de l'écriture. Donc, il y a quelque chose qui est avec Gilets jaunes, ce qui a dû sans doute se passer, c'est combien de rappeurs ont cherché la rime parfaite avec Gilets jaunes, en creusant, en trouvant un moyen de... Et c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi un engagement dans l'écriture, dans la technique, parce que le rap est vraiment une écriture très technique, il faut aussi en parler, c'est-à-dire que réussir à faire rentrer des rimes à la fin des mesures, c'est-à-dire cet accord musical où, hop, la boucle à chaque fois du sample se termine, il faut qu'il y ait une rime au milieu, une rime, il y a toute cette écriture très technique qui est aussi quelque chose de l'ordre du combat d'un artiste qui d'abord doit maîtriser peut-être ça un peu comme un solfège avant de vouloir revendiquer aussi peut-être quelque chose de politique, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'engagement dans la manière d'écrire et de peaufiner en fait un art, parce que le rap est toujours plus technique, toujours plus en avance, il cherche toujours à se renouveler, ne serait-ce que dans l'écriture.
Je vous soumets une réaction d'auditeur, c'est Richard qui nous dit « Le rap est mort, vive le rap, plus sérieusement sur la scène alternative, le rap n'est pas mort, sur les ondes, oui, c'est du rap commercial ». Adrien Pavillard, il faut distinguer plusieurs formes de rap différents, celles qui passent sur les ondes, sur France Inter ou ailleurs, ce qui est diffusé en streaming, ce qui est diffusé dans les soirées, ce qui est diffusé dans la scène alternative dont nous parle Richard. Il y a plusieurs raps, tout simplement.
Oui, alors je ne suis pas sûr que ce soit les modes de diffusion, parce qu'aujourd'hui on peut trouver un peu tout ce qu'on veut grâce à Internet. Mais il y a beaucoup de rap aujourd'hui, c'est ça en fait. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait moins de rappeurs engagés aujourd'hui, en nombre. C'est juste qu'ils sont noyés dans une masse où le rap est devenu une musique un genre musical très très important aujourd'hui. Très très important, donc pour moi c'est surtout une question d'être dilué en fait, et après je pense que chacun peut trouver son rap.
Alors le rap, on en parle et on en écoute. À eux deux, ils incarnent l'explosion du rap dans le paysage musical français. Leur dernier album vient d'être certifié triple disque de platine. Deux frères, PNL.
On a grandi comme les princes de la ville, fou comme prince de Bel-Air. Flow Corvette Ford Mustang, dans la légende. La police d'une à 6 étoiles, à toujours se dire Bellec. Trop gentil comme Cody, sentiment dans la salle du temps. Il était une fois deux frères, deux fauves, deux trous dans le cerveau, poteau de père. Conditionné au fond d'un hall sur une chaise, emprisonné des rêves qui brisent plus d'une chaîne. Esprit de gosse caché derrière le fait. Pris d'ambition en stagnant devant LV. Salaire de bas que chaque soir dans les Nike. Bénéf de la beuh qui part dans le mic. On a grandi comme les princes de la ville, les rois du hall. Dans le ciel pas plus d'une étoile, en face du trône. Des grammes, des kills de peine mènent dans le bain. Deux frères, deux fauves, le M. Deux frères, deux frères, deux frères, deux frères, deux frères, M. Deux frères, deux frères, M. Deux frères. Bah écoute ces fils de pute, tu parles là pour être aimé, faudra t'y faire à l'idée. Rien à foutre, c'est qu'attendre des boîtes sera de merde. Doute qui t'aura validé. Même plus besoin de viscère, de la qualité d'un PVR. De la force au calme, ok, ok, allez, c'est l'heure.
J'ai grandi dans le zoo, je suis vérifié dans la jungle, n'est pas de grand frère. Papa nous a cogné tête contre tête, nous a dit je veux un amour envers. J'veux personne d'entre vous, même pas moi, même pas les anges de l'enfer. J'ai aimé mon frère puisque ma vie est comme me l'a appris mon père. Chaque rêve, chaque cauchemar, chaque ennemi, chaque euro partagé. Et à part les nombres de cicatrices, rien ne va changer. Dans les mêmes miroirs, on s'est regardé. Dans les mêmes trous noirs, on s'est égaré. Quand on était petits, on avait les mêmes sables, plus grands, les mêmes armes. Même Niax, même terrain, Igo, les mêmes Chilagbo. Jamais les mêmes femmes, moi c'était les belles blondes. Lui les vénézuéliennes, moi dehors lui qui tombe. Rien ne nous sépare, même pas nos bitches. Tout ce que je prends, je te le donne un peu comme envie. Quand t'as qui sait ce que je vis, que moi qui sais ce que tu vis. On s'est dit c'est l'heure de les baiser si on fusionnait, chi.
Deux frères, deux frères. Deux frères, deux frères, M. Deux frères, deux frères, M. Deux frères.
Bah écoute ces fils de pute, tu parles là pour être aimé, faudra t'y faire à l'idée. Rien à foutre, c'est qu'attendre des boîtes sera de merde, tout ce qui t'aura validé. Même plus besoin de viscère, de la qualité d'un PVR. De la force au calme, ok, ok, allez c'est l'heure.
Ouais, c'était bien PNL et plein de gros mots sur France Inter. Merci à Thierry Dupin pour la programmation musicale.
Le débat du midi. Nadia Dam sur France Inter.
Et on interroge aujourd'hui dans le débat de midi le rôle, la place du rap français. Jean Morel, vous vouliez réagir à la réaction d'auditeurs que je vous ai soumis il y a quelques instants. C'est Richard qui nous disait une punchline, le rap est mort, vive le rap.
Oui, j'ai beaucoup aimé cette formulation parce que je la trouve très juste et notamment sur un point très précis, c'est que dans l'ADN du rap, le rap est vraiment une musique qui est créée sur la culture du sample. Le sample, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage, c'est-à-dire prendre une boucle et la répéter pour rapper dessus. Et je pense que ça permet énormément de choses en fait, et ça symbolise beaucoup de choses, c'est-à-dire que en pouvant piocher à droite, à gauche, en pouvant aller chercher des inspirations et se les approprier pour ensuite créer quelque chose, le rap se renouvelle en permanence, en tout cas en tant que genre musical. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge, hop, un rappeur va sampler un petit bout, rapper dessus, et je pense que c'est aussi le cas dans les thèmes qui sont abordés dans les morceaux. C'est-à-dire quand il y a certains sujets, par exemple le nihilisme ou la déprime à l'idée de vendre de la drogue, comme ma PNL à l'instant par exemple, eh ben il y a toujours cette idée qu'on peut s'inspirer et ensuite se réapproprier quelque chose, et je trouve que le rap justement ne meurt jamais grâce à ça, donc je trouvais la remarque très juste.
Alors encore une réaction d'auditeur, c'est Clément qui nous demande d'arrêter de comparer les générations, voilà ce qu'il écrit, c'est dommage d'opposer encore les gens et les époques, c'est une musique faite pour 100 personnes mais pour des millions, je crois qu'en plus c'est un extrait d'un titre de rap, c'est bien ça Daphné Veil. Est-ce que effectivement il a raison Clément, c'est plus générationnel aujourd'hui le rap, et ce serait effectivement pas très judicieux d'opposer les générations.
Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, le rap peut toucher toutes sortes de populations et toutes générations. Donc, il a raison.
Complètement.
Adrien Pavia.
Oui, après, c'est des styles très différents pour moi. C'est une question donc musicale, après.
Est-ce que vous pouvez...
Si on compare avec le rock, je pense que les gens qui écoutaient du rock tout au début... Les 50 sont peut-être pas retrouvés quand il y a eu du rock psychédélique et sont peut-être pas retrouvés dans le punk. Et pourtant, ça reste des formes de rock.
Adrien Paviard, je vais vous demander d'être un tout petit peu transparent. Vous pouvez nous dire sincèrement ce que vous pensez de PNL qu'on vient d'écouter?
Alors moi, c'est pas du tout ma cam. C'est pas du tout ce que j'écoute. Moi, ça me parle pas, en fait. Moi, personnellement, musicalement, c'est pas quelque chose que je trouve dément. C'est bien fait. Moi, ce que je trouve fascinant chez PNL, c'est... leur capacité marketing, en fait, à se vendre.
L'usage d'Instagram, la création de la marque.
Oui, mais qui est adapté à l'époque. Mmh. Qui représente aussi quelque chose, qui est une forme de discours aussi de faire comme ça, de s'affranchir aussi des labels, de s'affranchir une industrie musicale qui a fait aussi du mal un peu au rap.
De quelle manière?
Il y a une période quand même où le rap qui a été mis en avant, alors c'est tout le débat sur une radio concurrente de la vôtre.
Spécialisé sur le rap, citer, oui.
Donc Skyrock.
Voilà, on s'en doutait que c'était celle-là. Oui.
Qui est que, en effet, parce qu'il a fallu vendre, parce que ça vendait beaucoup, et ben les titres mis en avant, ou même le moment où un refrain devait rentrer, etc. Tout ça était décidé entre les labels, la direction de programmation de Skyrock, etc. Avec les artistes, je sais qu'il y a des artistes qui en ont souffert, en tout cas, ou des artistes même qui se sont fait d'ailleurs qu'on a poussé. Parce qu'ils ne rentraient pas dans les cases et qu'il fallait tout d'un coup rentrer dans des cases.
Alors Florence nous a écrit pour nous dire assez sèchement que France Inter veut imposer le rap et sa pauvreté musicale et que c'est pathétique. Elle a parfaitement le droit de le penser. Mais est-ce que ça illustre le fait que malgré le succès commercial, le rap peut rester méprisé par des institutions, par des classes dominantes et par des gens, tout simplement, Jean Morel, qui sont totalement hermétiques à la fois au message quand il existe et à la forme?
Je pense qu'évidemment, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est la première culture de base. On ne pourra pas faire en sorte que tout le monde aime le rap, et heureusement, parce que sinon, ça serait terrible. Il y aurait justement pas de cadre de débat qu'on est en train d'avoir. Après, sur le rap et la forme d'acceptation par l'institution, je pense que pour le coup, ça, en tout cas pour une certaine partie de la population, c'est un combat qui a déjà été gagné d'une certaine manière. C'est-à-dire que avant, il y avait vraiment la revendication, soit un rejet complet des médias qui ne les comprenaient pas, soit l'idée de au moins essayer d'utiliser les médias pour faire passer un discours. Aujourd'hui, maintenant, évidemment, comme l'enjeu de l'argent et le fait qu'il y a une sorte de monopole incroyable de la musique dite avec ce gros mot urbaine qui fonctionne.
Ah, pourquoi un gros mot? Enfin, pourquoi musique urbaine, ça écorche les oreilles de plein de gens, mais pourquoi?
Parce que je considère que ce qui est assez intéressant avec le rap, c'est qu'il n'y a pas eu de terminologie qui a été faite des genres musicaux. C'est-à-dire que je considère que les raps sont pluriels. Contrairement, en effet, tout à l'heure, il y avait juste des citations. On parlait de rap psychédélique, on va parler de post-punk, de choses très précises. Ce travail-là n'a pas été fait journalistiquement pour définir quels sont les types de rap. Par exemple, pour PNL, des gens trouvent des mots. On parle de cloud rap. C'est un mot anglais pour dire quelque chose de vaporeux, de nuageux. Mais c'est des terminologies qui ne sont pas extrêmement fixées et qui n'ont pas été utilisées par tout un ensemble et tout un corpus de journalistes, donc du coup...
Aux Victoires de la Musique, on a tranché, c'est musique urbaine.
Oui.
Et c'est une acceptation extrêmement large.
Au pluriel en plus. Mais ça, voilà, qu'est-ce que ça veut dire musique urbaine? Quelle musique n'est pas urbaine, en fait, ça qui me perturbe avec ce terme.
Adrien Pavillard, c'est une manière d'euphémiser, de lisser un peu le rap, que de mettre ça dans un grand fourre-tout.
Complètement. D'ailleurs, c'est arrivé aux Victoires de la Musique un peu après les émeutes de 2005. Hein.
C'est-à-dire, rappelez-nous.
En 2005, donc, les banlieues se sont enflammées en France, très fortement. Et dans les Victoires de la Musique qui ont suivi, tout d'un coup, le mot rap a disparu. C'est devenu musique urbaine.
Et vous faites le lien entre les événements de 2005 et la disparition du mot rap dans les Victoires de la Musique?
Je pense parce qu'on on a beaucoup, en 2005, on a beaucoup dit que c'était la faute des rappeurs. Soit parce que leurs textes avaient mené les gens à faire ce qu'ils avaient fait, soit parce qu'ils n'avaient pas arrêté les jeunes de brûler des voitures.
Comme si c'était leur rôle d'empêcher un mouvement.
Quels autres artistes sont aussi responsables du milieu social desquels ils viennent? Je ne sais pas.
Daphné Vell, ce traitement médiatique du rap français, est-ce qu'il a si évolué que ça? Moi, j'ai un souvenir assez précis d'une interview du rappeur Vald, je crois, par Thierry Ardisson, qui commençait l'interview en lui disant ça: vous êtes rappeur, mais vous savez conjuguer les verbes au présent de l'indicatif.
Oui, ça
c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 2 ans.
Oui, c'était un moment très gênant, et il y a souvent des moments gênants comme ça. Je pense qu'il y a des émissions où il ne faudrait peut-être pas aller. Enfin, c'est où on sait que ça va être un guet-apens et c'est peut-être pas nécessaire.
Vous êtes productrice de plusieurs groupes de rap, dont Arsenic. Oui. Vous leur recommanderiez de ne pas aller sur certaines chaînes dans certaines émissions. Lesquelles?
Je ne sais pas si on peut les citer, mais c'est vrai que quand Lino avait sorti son album Requiem, on avait été sollicité pour aller dans l'émission de Ruquier, par exemple. Enfin, on n'est pas couché, on en avait discuté. Et bon, pour venir faire un live, pour présenter son travail, oui, mais pour entrer dans des débats ultra clichés où il va être tout seul à se défendre, enfin, c'est pas quelque chose qui nous intéressait et qui allait apporter quelque chose dans le cadre de la mise en avant de l'album, en fait.
Ouais, Jean Morel, vous voulez réagir.
Oui, je me permets de rebondir sur ce que dit Daphné. D'autant plus, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est transformé, c'est-à-dire qu'il y a un tissu d'un journalisme rap qui existe, qui est représenté sur beaucoup d'antennes ou même de manière indépendante.
Le Move, sans, chez Radio France.
Sans passer par les grandes,
Move,
justement,
d'ailleurs,
aux instances.
Pas le Move,
et du coup, il y a plus besoin. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un tel tissu, un tel réseau, qu'il n'y a plus besoin de passer par les grandes instances médiatiques pour se faire entendre et pour se faire écouter. Donc, du coup, on parle avec des gens en face de soi qui connaissent cette musique, et on s'adresse à un public qui connaît cette musique aussi. C'est ce qu'on appelle le forest bias, notamment. C'est pour nous, par nous, par nous, pour nous, pardon. Et donc, il y a cette logique de se dire, en fait, n'allons pas nous confronter à des gens qui ne savent pas exactement de quoi ils parlent pour à chaque fois se retrouver dans un statut soit humiliant, soit ironique, et parlons entre personnes qui aiment cette musique et qui sont prêtes à la défendre pour ce qu'elle est.
Daphné Veil.
Après, on a pu remarquer aussi dans les médias aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont grandi avec le rap. Donc il y a des journalistes de notre génération à nous qui, voilà, Nadia par exemple.
J'ai levé la main, oui, pardon.
donc ça permet d'exposer légèrement le rap, mais c'est pas pour autant qu'il est ultra relayé dans les grands médias. Et on voit souvent que c'est souvent les faits divers, en fait, qui ressortent le plus et qui sont relayés.
C'est-à-dire Boubacaris, le combat Boubacaris,
voilà,
ce genre de choses.
Et on a d'autres exemples comme ça. Ou dans les pages culture, il n'y aura pas de sujet sur l'album du rappeur qui est sorti ou les prouesses qu'il a pu faire. Il y aura uniquement une rubrique dans les faits divers où on va parler de lui. Donc ça reste quand même assez fréquent.
Adrien Pébert, vous souscrivez à ce constat? On en est effectivement encore là à considérer les rappeurs comme des sources de faits divers et de...
On en est encore là, oui. C'est là depuis le début. Par exemple, mon documentaire, j'ai une archive d'NTM, ça doit dater de 93 peut-être, où déjà ils reprochent à beaucoup de journalistes, en effet, de venir les interroger sur les problèmes en banlieue, sur les émeutes, sur tout ça, alors qu'eux, ils voudraient parler de comment ils font un album, de comment ils écrivent, de ce qu'ils veulent parler, de ce dont ils veulent parler, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est toujours pareil, mais aujourd'hui, il y a une vraie possibilité de sortir de ça. C'est ça qui est bien avec avec la dématérialisation, avec le web, etc. C'est qu'on, non seulement on peut distribuer, etc., ces albums sans donc...
Les canaux de distribution ont changé, c'est ce que vous soulignez aussi. C'est plus du tout comme avant où on allait acheter son disque à la Fnac, je cite encore une marque, pardon, mais alors qu'aujourd'hui c'est les plateformes de streaming, des vidéos YouTube, ça a changé la diffusion.
Oui, beaucoup d'émissions qui sont faites autour de certains artistes pour les découvrir, etc., et du coup, ça, en effet, les gens, du coup, on peut s'affranchir, en effet, de tout ce jeu médiatique où on était obligé d'aller dans une grande émission dans laquelle on était moqué.
D'être caricaturé.
Voilà. Parce que les gens s'intéressaient pas non plus, ils essayaient pas de comprendre non plus un peu d'où venaient les rappeurs.
Daphné Veil.
Et du côté jusqu'à maintenant, on parlait beaucoup des playlists des radios. C'était vital de rentrer en playlist sur les grandes radios pour pouvoir réussir à toucher un max de monde. Et maintenant, grâce au streaming, maintenant, les playlists sur les plateformes de distribution ont pris de l'ampleur. Donc ça devient, il y a beaucoup de chaînes de playlists, pardon, avec énormément d'abonnés, des millions d'abonnés parfois sur je vais pas en citer. Et donc ça devient assez incontournable maintenant de se retrouver dans ces playlists-là. Donc il y a d'autres moyens d'exposer sa musique et d'autres canaux en fait. La consommation a changé.
Une question qui m'importe et qui importe à beaucoup sur la place des femmes dans le milieu du rap. Je vous pose la question à tous les trois. Est-ce qu'elle a évolué de manière favorable ou non depuis 30 ans? Je parle à la fois sur scène et devant le micro, mais aussi dans la hiérarchie, dans l'industrie musicale. Daphné Veil, et puis je voudrais vous entendre tous les deux aussi.
Alors, dans l'industrie musicale, donc il y a toujours eu des femmes dans l'industrie musicale, des journalistes, des chefs de projet, des productrices, il y en a toujours eu, même dans les années 90. Aujourd'hui, il y en a encore énormément.
Mais on les voyait pas beaucoup. Hein.
Elles
étaient derrière sur la photo quand même.
Voilà, mais est-ce que c'est des personnes qui étaient amenées à être exposées? Je suis pas sûre qu'une journaliste ou qu'une productrice ait vraiment besoin d'être exposée. Et aujourd'hui, donc, il y en a encore beaucoup. Par contre, la réalité, c'est que dans les postes élevés, il y en a très peu. Il y a que deux directrices de label aujourd'hui dans la musique, si je dis pas de bêtises, de label de maison de disques, pardon, en major. Je sais pas si on peut les citer.
Oh ben non, on va arrêter non. Là.
D'accord. On a fait la retape pour pas mal de marques.
Dans une grande major, donc il y a deux labels avec à la tête des femmes, mais elles sont omniprésentes, elles ont toujours été là. Après, en termes de rappeuses françaises, il y en a jamais eu énormément. À l'époque, il y en a plusieurs qui ont plus ou moins réussi, dont une qui a cartonné, qui est Diams, bien évidemment. Pardon. Et aujourd'hui, donc il y a encore des rappeuses, mais qui ont du mal. Enfin, c'est pas facile. Je trouve que c'est plus difficile pour une rappeuse aujourd'hui que pour un rappeur, parce qu'on est, je trouve qu'on est beaucoup plus critique envers les femmes qui rappent que les hommes. Mais il y en a. Mais il y en a pas beaucoup.
Jean Morel, je vous pose la question brutalement. Le rap actuel est-il plus sexiste qu'avant?
Sur la misogynie dans le rap, je pense qu'il y a eu très peu d'évolution. Ce qui est intéressant, c'est de voir, au contraire, justement, pour les artistes, la manière de revendiquer le fait de faire du rap. Quand il m'arrive, dans le cadre de mon travail, d'interviewer, de discuter avec des rappeuses, justement, ce terme-là, déjà, les énerve. On discutait avec un rappeur, c'est-à-dire qu'il y a cette volonté à chaque fois de distinction, ou cette question, qui est une question évidemment qu'on doit se poser, mais ce qui insupporte aujourd'hui les rappeuses, c'est qu'on ne leur parle que de cette question. On leur dit, alors toi, tu es une femme dans le rap, qu'est-ce que c'est? Mais dis, mais parlez-moi d'abord de ma musique, parce qu'il y a un truc qui est essentiel, c'est que, encore une fois, je reviens à ce truc très important dans le rap. Le rap, c'est technique. Il faut être plus brillant que la personne à côté de soi quand on est en train de rapper. Il faut avoir les meilleures punchlines, les meilleures rimes. Et donc, du coup, elles travaillent incroyablement sur leurs rimes. Et finalement, on ne parle jamais de ça, mais plutôt à chaque fois du même statut de la femme au sein du rap. C'est ça que je trouve un peu dommage, parce que c'est vraiment des artistes formidables. On devrait parler que de leur musique et on ferait un pas en avant pour moi.
Et ben, elle a de belles punchlines et de belles rimes. On écoute Little Sims, la londonienne, Offense.
Man, I think I need a tour break.
Might take a trip to the Philippines and my Spanish boy hold a haze. Hold on my blood, I come back in town and I need an ounce, give me more place. Take mom on the street, like it, anything you want, this is your day. I follow the white rabbit, got a couple carrots, I know that I got bad habits. Trying to find a balance, I'm in the store like I wanna have it, I gotta have it. You are not the toughest or baddest, my pet is the maddest. I'm probably any caprice and it's never right, I'm honest. Gas never lane, even on 10, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like nah, Sims won't flip. But when I switch, then they wanna say that I'm a b-
I said it with my chest and I don't care who I offend.
Midi 55 sur France Inter, vous venez d'écouter Little Sims, validé par la totalité de mon panel d'invités. L'émission touche à sa fin, j'ai une dernière petite question pour vous trois justement.
Le débat de midi sur France Inter.
Question rituelle du débat de midi, je voudrais savoir avec quelle personnalité, vivante ou disparue, célèbre ou anonyme, peu importe, vous aimeriez pouvoir discuter, échanger des punchlines. Tiens, Jean Morel.
Bah, je pense que ce serait avec David Bowie, mais ce serait pas un débat, je l'écouterais juste en fait. Et je pense qu'il y a pas mal de punchlines chez David Bowie.
C'est vrai.
Il y a des punchlines même dans les actes, je pense que même ses prestations et sa manière de se tenir, à mon avis, quand on devait avoir une conversation, était déjà une punchline.
Il écoutait du rap, David Bowie, vous le savez?
Je ne sais pas du tout. En tout cas, ça a toujours été quelqu'un d'extrêmement curieux et vraiment du coup pas du tout sectaire. Ça, pour le coup, c'est tout son parcours musical le laisse le penser. Donc je pense qu'il aurait été très enclin à vouloir savoir s'il y avait quelque chose de nouveau. Il a beaucoup voyagé, ne serait-ce que pour découvrir des nouvelles musiques. Donc je pense qu'il a forcément écouté du rap et hoché de la tête.
Adrien Pavillard, même question.
À moi, ça aurait été Théodore Kaczynski, qu'on appelle Yuna Bomber. Alors, je suis pas du tout d'accord avec le fait de tuer des gens. Ça, c'est pas du tout. Mais je trouve que c'est quelqu'un.
Situer le personnage.
Alors, c'est
et l'histoire.
Un mathématicien américain qui était à Harvard comme étudiant et qui un jour s'est retiré de la société pour vivre dans la forêt parce qu'il pensait que la technologie allait détruire l'humanité et malheureusement a décidé de lancer une campagne pour qu'on. Il avait écrit un manifeste et il voulait absolument qu'il soit diffusé par de grands journaux américains. Et donc, pour qu'on le fasse, il a décidé d'envoyer des lettres piégées à une trentaine de personnes. Il a quand même eu des morts, donc c'est pas très rigolo ça. Mais c'est quelqu'un qui questionnait très tôt, en fait, justement, la technologie et les conséquences, en fait, d'une surtechnologie dans la société. Et je trouve que ce serait intéressant, quand même, de parler avec lui. Voilà.
Et je recommande d'ailleurs un très bon documentaire Netflix sur le sujet. Daphné Veil. Même question.
Alors aujourd'hui, je suis pas très originale, je vais encore parler de Lino, je suis désolée. J'ai déjà l'habitude de débattre avec lui et c'est vrai
Lino
que c'est
rappeur que vous produisez.
Lino rappeur du groupe Arsenic que je manage et qui a une manière de d'aborder les sujets qui est assez originale. Donc on entre toujours dans des discussions assez poussées, ça peut durer des heures et c'est je sors toujours assez enrichi de ces débats avec lui et j'aime beaucoup aussi discuter avec Fianso avec qui je travaille qui est hyper calé enfin qui a une mémoire de dingue et qui est hyper calé niveau histoire et qui a une connaissance qui permet aussi de débattre pendant des heures et d'apprendre des choses aussi.
Merci à tous les trois, merci Jean Morel, je rappelle que vous êtes cofondateur de Grunt, un collectif associatif qui organise des freestyles, Daphné Veil, productrice et manageuse d'Arsenic, on vient d'en parler, et Adrien Pavillard, pardon, réalisateur de Saveur Bitume, web-série qu'on retrouve sur, rappelez-nous,
Arte Créative.
Merci à tous les trois
merci
et merci,
merci
à Lucie Lemarchand qui a réalisé l'émission. Demain, dans le débat de midi, on va questionner la question. Oui, c'est une double. Ouais, la question de la légalisation du cannabis. Et non, je n'ai pas fumé.